réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
J'étais en vacances, c'était ma semaine de vacances de juillet. J'avais amené mon cheval de région parisienne, puis je faisais des balades dans la région, et l'une d'entre elles m'a amené sur la plage.
J'étais en ramassage d'algues sur la baie à environ 200 mètres du lieu où c'est arrivé. Et puis, tout en faisant mon boulot, je l'avais dans la vue quelque part. Il faisait des exercices avec son cheval sur la plage. Et puis, à un moment donné, je l'ai vu se diriger vers la rivière à pied avec son cheval derrière lui, quoi. Et peut-être quoi, 2-3 minutes après, je me retourne et puis je ne le voyais plus, quoi. Et je me dis, je vais aller voir ça quand même, quoi.
Je m'approche d'un tout petit cours d'eau, vraiment un ruisseau qui s'appelle le Rosquat, hein, qui débouche sur la grève et qui la traverse. Et puis en approchant de son lit, à quelques petits mètres, tout d'un coup je m'enfonce dans une vasière qui était vraiment invisible comme ça en approchant. Donc je m'enfonce jusqu'au genou d'un coup, mon cheval qui était à côté de moi, pareil, met les antérieurs dedans. Donc il se projette dans la vasière, moi avec, puisque j'étais à côté de lui. Et ensuite, en quelques instants, il fait un arrêt respiratoire, c'est-à-dire que je le vois arrêter de respirer, planter la tête dans la vase. Et j'ai juste eu le temps de crier un ramasseur d'algues qui était sur son tracteur à quelques dizaines de mètres de venir nous aider. Et à partir de là, je garantis que c'est un rideau noir et que je n'ai plus aucun souvenir de comment ils s'y sont pris pour me sortir de là. Me ranimer, me mettre dans une ambulance.
Première partie, 4 accidents recensés par l'urgentiste Pierre Philippe.
En 2009, je prends mon service aux urgences à l'hôpital et j'apprends que la veille avait été véhiculé aux urgences M. Petit, donc, qui avait été victime d'un accident à Saint-Michel-en-Grève. Il avait été apporté par le SMUR la veille. Et l'hypothèse, c'était le fait qu'il ait inhalé de l'eau, on ne savait pas trop, inhalé après avoir fait une convulsion. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu et qui n'avait aucune raison de faire une convulsion. Et surtout, le cheval qu'il tenait par la bride est décédé en moins d'une minute devant ses yeux, quoi. Donc, je lui ai dit, pour moi, votre convulsion, elle est liée au fait que vous avez été intoxiqué par les émanations des algues vertes. J'ai déjà été confronté à cette situation à 2 reprises. Donc il faut qu'on arrive à prouver. La seule façon de prouver, c'est de faire un prélèvement sur votre cheval.
Je croyais, comme beaucoup je pense, que les algues vertes causaient une pollution essentiellement visuelle et olfactive. Peu de gens, en effet, savent qu'elles ont tué. Non seulement des animaux, mais aussi des êtres humains. Et c'est ici, dans les Côtes d'Armor, que j'ai découvert la réalité.
Dans les faits, je suis resté 20 à 30 minutes sans connaissance, avec une cyanose, donc les lèvres et les extrémités des membres bleus, des convulsions qui se sont arrêtées lorsque j'ai été oxygéné. J'ai passé la nuit en hospitalisation, en passant tout un tas d'examens, et c'est le lendemain matin que le docteur Pierre Philippe, avec qui j'ai discuté, a émis l'hypothèse d'une intoxication par les gaz émis par les algues vertes en putréfaction, ce que j'ai découvert, puisque je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé, mais je ne connaissais même pas l'existence d'un gaz dangereux émis par les algues vertes.
Les algues vertes, lorsqu'elles sont accumulées en couches épaisses sur les plages, forment un piège parfait. En surface, elles sèchent, deviennent blanches et se confondent alors avec le sable. Mais au-dessous, en putréfiant, elles développent un gaz ultra-toxique, l'hydrogène sulfuré, ou H2S. Ce gaz est connu pour son odeur d'œuf pourri, mais en quantité importante, il anesthésie le nerf olfactif et peut tuer aussi rapidement que du cyanure. C'est en tout cas ce que soupçonne depuis près de 30 ans Pierre Philippe, urgentiste à l'hôpital de Lannion.
Alors, ma première prise de contact avec ce problème, ça a été en fin juin 1989. J'étais nouvellement médecin dans le service des urgences de l'hôpital de Lannion. Je venais d'arriver en poste depuis quelques mois. Et j'avais appris par la presse qu'il y avait un jogger qui n'avait pas donné signe de vie depuis 3 ou 4 jours. C'est un jeune homme de 26 ans qui était allé faire un footing sur la plage de Saint-Michel-en-Grève. Et on ne l'a jamais revu. Donc il a fallu 3 jours avant que son corps soit retrouvé au sein d'un amas d'algues vertes conséquent, puisqu'il faisait plus d'un mètre d'épaisseur, donc en haut de la plage de Saint-Michel-en-Grève. Il se trouve que, en tant que médecin de garde en ce temps-là, donc j'ai été plus ou moins réquisitionné pour faire l'examen du corps et savoir exactement quelle était l'origine du décès. Je n'ai pas pu faire l'examen parce que c'était irrespirable. Dès qu'ils ont ouvert la housse, c'était totalement irrespirable. Pas lié à l'état du corps, hein. Lié aux émanations des algues vertes, hein, dans lesquelles il avait séjourné pendant 3 ou 4 jours. Donc j'avais demandé à ce qu'il y ait une autopsie de fait sur l'hôpital de Saint-Brieuc pour déterminer l'origine du décès. J'avais lu quelques articles, je me suis toujours intéressé à l'environnement et au milieu maritime. Je suspectais qu'effectivement il puisse y avoir une origine entre les émanations de gaz émises par les algues en putréfaction et la santé. C'était donc en juin, début juillet 1989. Je n'ai jamais eu le résultat de l'autopsie. Même 20 ans plus tard, j'ai demandé le résultat de cette autopsie, je n'ai jamais réussi à l'obtenir. Que ce soit après plusieurs demandes auprès des procureurs de la République, auprès de différentes instances, ça a été une fin de non-recevoir. Je n'ai jamais réussi à l'obtenir. Et il se trouve qu'en 1999, donc 10 ans plus tard, il y a un monsieur qui ramassait des algues vertes pour une entreprise qui collectait les algues au même endroit où le jogger a été retrouvé, parce qu'effectivement c'est une pollution essentiellement, c'était considéré comme essentiellement visuel en ce temps-là. Et donc il ramassait dans une chargeuse donc ces algues vertes à longueur de journée pendant toute la saison estivale. Et donc, notre SMUR a été appelé parce qu'il a perdu connaissance au volant de son tracteur en fin de journée. C'était quelqu'un qui avait remarqué que son tracteur filait vers la mer de façon anormale, donc qui est arrivé, qu'il a trouvé inconscient dans l'habitacle de son tracteur. Et il a fait un état de mal convulsif, c'est-à-dire des convulsions qui se répètent avec un coma. Donc, intervention du SMUR, il a dû être mis sous assistance respiratoire, situation d'extrême urgence, quoi, hein. Donc il a été amené aux urgences de l'hôpital de Lannion, il y a eu les premiers examens, scanners, il y a eu des tas d'examens, il y avait absolument rien qui permettait de l'expliquer, donc ils avaient conclu à convulsion isolée, sans savoir pour quelle raison. Donc j'ai vu son dossier le surlendemain, et ça m'a interpellé le contexte, connaissant bien la région, je me suis dit, tiens, c'est au même endroit où le jogger a été retrouvé il y a 10 ans, c'est quand même curieux. C'est quelqu'un qui est en très bon état général, qui n'avait aucun antécédent, 52 ou 53 ans il avait en ce temps-là. Et donc, aucune raison de faire une crise d'épilepsie, surtout si on ne trouve rien au scanner, si on ne trouve rien qui permet d'expliquer ça. Donc, à ce moment-là, j'ai envoyé un courrier à la DAS, qui s'occupait des problèmes sanitaires, en leur disant que, comme j'avais eu un antécédent 10 ans auparavant, il fallait mettre les deux choses en relation et que probablement il était possible qu'il ait eu une intoxication liée aux émanations d'algues vertes. Et au bout de plusieurs mois, à force de demander, j'ai fini par avoir une réponse qui disait que, comme il n'y avait jamais eu de cas de décrit jusqu'à ce jour, pas de raison d'évoquer l'hypothèse des gaz émis par les algues vertes. Et donc, bon, ça en est resté là, quoi. Là, je ne pouvais rien faire d'autre qu'attendre un éventuel autre pépin. Durant l'été 2008, donc là on est 9 ans après l'accident de M. Briffaut.
20 ans après la mort du jogger.
Du jogger, ouais, 20 ans. Pendant mes vacances, je vois qu'il y a une jeune femme qui se promenait avec ses deux chiens sur la plage d'Illion dans les Côtes d'Armor, qui est aussi infestée par les algues vertes. Hein, c'est la deuxième zone la plus infestée dans la région. Et qui se promenait avec ses deux chiens, 13 et 20, plus de 20 kilos, je crois, le deuxième. Et ils ont dû aller sur un amas d'algues vertes, et puis ils les ont retrouvés morts tous les deux. Statistiquement, quand vous avez des décès collectifs comme ça, sur un même endroit, c'est l'hypothèse toxique qui est la première à évaluer. On peut pas penser que les deux chiens aient fait un infarctus en même temps qu'ils aient fait. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. C'est forcément une hypothèse toxique. Et l'article de presse relatait qu'effectivement, elle avait évoqué l'hypothèse que ça puisse être lié à ça. Et la réponse des autorités, y compris de la DAS, qui avait fait un article dans la presse, disait que à ce jour, il n'y avait jamais eu de cas décrit de décès lié aux algues vertes. Donc, la même réponse que celle que j'avais eue 9 ans auparavant. C'est le service auquel j'avais expédié ce courrier 10 ans auparavant qui se permet de mettre par voie de presse qu'il n'y a pas de réel danger pour l'homme. C'est assez édifiant. Il n'y a pas d'autre mot, je pense.
Le 13 août 2008, dans le Télégramme, la préfecture de Saint-Brieuc déclare « La seule étude existante sur les plages des Côtes d'Armor a été réalisée en 2006 et les valeurs qui ont été relevées sont très inférieures à celles pouvant provoquer le décès d'un chien. » Mais en réalité, c'était faux. J'ai découvert dans les archives de la DAS, la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, que les autorités avaient connaissance du danger potentiellement mortel des algues vertes depuis un an déjà. En effet, lors de mesures effectuées par Airbraze, pour les comptes de la DAS en 2007, les taux d'hydrogène sulfuré étaient tels que les appareils de mesure étaient saturés. La DAS avait aussitôt informé la préfecture du danger mortel qui existait sur les plages bretonnes. Mais en 2008, rien encore n'avait vraiment été fait pour prévenir ce danger. À peine un an plus tard, c'est au tour de Vincent Petit, le cavalier, par ailleurs vétérinaire, d'atterrir aux urgences de Lannion dans le service du docteur Pierre-Philippe. Son cheval est mort, lui a perdu connaissance, et tout cela exactement au même endroit que celui où ont été retrouvés le jogger en 1989 et le ramasseur d'algues en 1999. L'urgentiste lui révèle alors son hypothèse à propos des algues vertes en putréfaction et lui propose de faire autopsier son cheval.
Mon cheval a été extrait de la vasière et on a essayé de le faire équarrir pendant que j'étais à l'hôpital. Sa dépouille a été stockée dans un champ dans la campagne avoisinante, sous une bâche. Et quand le lendemain, lorsque je suis sorti, je reviens à Saint-Michel-en-Grève, je demande où est mon cheval, la dépouille de mon cheval, parce qu'on allait demander à faire une autopsie. Et là, j'apprends qu'on attend l'écarissage pour le faire brûler, hein, puisque l'écarissage, c'est brûler une dépouille, ce qui tombait très mal, puisque c'était une pièce à conviction. Et on a réussi à récupérer la dépouille avant que le camion d'écarissage ne passe et changer la destination, non pas vers le centre d'écarissage, mais vers un vétérinaire pour qu'il réalise l'autopsie.
Mais qui avait commandé l'écarissage ?
C'est la mairie. Et oui, il a fallu contrer un empressement certain de vouloir équarrir à tout prix la dépouille pendant que je n'étais pas là. Ce serait revenu à faire disparaître l'épreuve.
C'était la seule façon de pouvoir obtenir enfin la preuve. Donc, alors j'ai eu des oppositions, mais alors... Pire qu'imaginable, les oppositions des services vétérinaires qui ne voulaient pas, les services d'écarissage qui, enfin, j'avais pas le droit de demander ça, il fallait que ça soit une demande des autorités sanitaires, enfin, ça a été vraiment une plaie toute cette matinée-là pour essayer de me battre pour obtenir cette autopsie. Ma seule façon de pouvoir avoir une quelconque pression pour pouvoir obtenir ces examens-là, c'est de dire cette fois-ci, je ne m'écrase pas et cette fois-ci, je communique à tous les médias. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, il y a dû y avoir des pressions de la préfecture et de la DAS sur l'administration de l'hôpital. Donc, dès le matin même, j'ai eu des appels téléphoniques de beaucoup de médias. À ce moment-là, donc, la direction de l'hôpital, par l'intermédiaire du directeur adjoint, est venue me dire « Attention, Monsieur Philippe, on a des coups de fil de la DAS et de la préfecture. Où vous êtes sur la ligne rouge, il ne faut pas que vous la franchissiez. » Enfin bon, on m'a bien mis en garde, hein. Et là, j'ai dit, de toute façon, là, Je sais ce que j'affirme, et là, j'irai jusqu'au bout. Maintenant, vous ne m'arrêterez pas. J'ai eu même des coups de fil assez agressifs par la suite de la direction des services vétérinaires en disant que j'étais en train d'affoler les foules et que j'étais en train d'ameuter tout le monde sur un risque qui n'était pas avéré. Enfin, ça a été assez chaud. Je leur avais dit, écoutez, je peux vous assurer que cette fois-ci, si vous mettez un frein aux analyses qu'on va faire, là, vous allez avoir toutes les associations environnementales sur le dos et elles pourront prouver que vous avez obstrué une avancée scientifique, tout simplement.
À partir de là, tout a été à notre charge, c'est-à-dire que il m'a été signifié que c'était un accident privé, qui ne regardait que moi et que je me débrouillais. Alors qu'il est, j'ai payé tous les frais d'autopsie, d'analyse biochimique avec un certain coût quand même pour doser ce gaz qui a donc été retrouvé à plus de 1 mg par kilo de matière, ce qui est simplement une bombe atomique quasiment dans le poumon. Et donc qui a pu montrer que c'était bien la cause de l'intoxication de mon cheval et de son décès. Mais si le cheval est bien mort intoxiqué par les algues vertes, ça on a réussi à le démontrer et à le faire reconnaître. Pour l'heure, les tribunaux considèrent que moi, je n'ai subi qu'un choc émotionnel alors que j'ai été intoxiqué de la même manière. C'est ce qu'on appelle assez simplement un cas d'intoxication collective. C'est ce qu'on essaye de faire reconnaître difficilement. Les autorités étaient conscientes du danger depuis plusieurs mois, voire années, avant la survenue de mon accident. Donc c'est totalement anormal qu'en France, on puisse laisser perdurer un tel danger jusqu'à ce qu'il se réalise.
Le cheval de Vincent Petit a été reconnu comme victime de l'hydrogène sulfuré. Mais les palais de justice tardent à reconnaître les morts humaines des algues vertes. Et en Bretagne, la plupart des gens à qui j'en parle autour de moi semblent ignorer que la preuve de la toxicité mortelle des algues vertes a été rapportée. Et continuent de considérer cette information comme une rumeur, à commencer par le patron de la petite entreprise de ramassage d'algues vertes qui a sauvé la vie à Vincent Petit. Selon lui, le cheval est mort en s'étouffant dans la vase et le cavalier a sans doute été étourdi par un coup de sabot.
Honnêtement, pour moi, on en fait trop. On a parlé d'algues vertes tueuses, faut pas pousser quand même. Il y a beaucoup de choses aussi dangereuses, voire plus dangereuses que les algues vertes et on laisse faire, quoi. Par exemple, tous les ans, il y a combien de morts dans les avalanches ou en montagne? Et puis, les gens continuent d'aller à la montagne quand même, quoi. Dans n'importe quel milieu naturel, à mon avis, faut savoir qu'il y a un risque, quoi. Une balade dans bord de mer, toujours le risque d'être pris avec une lame de fond, une balade sur des rochers, de glisser et de tomber, une balade en montagne, de prendre une crevasse. Suite à l'histoire du cheval, on a pris des précautions quelquefois démesurées, quoi. Je me souviens, les premières années après le 2010, là, on nous demandait de sécuriser les zones de ramassage avec des plots, avec des barrières, de porter des masques en permanence. C'était beaucoup trop par rapport, à mon avis toujours. Ça donnait une ambiance vraiment de Tchernobyl, là, quoi. Pour moi, si vraiment c'était dangereux, on ne verrait pas tout le monde qu'on a sur la plage tous les jours, là.
Donc pour vous, aujourd'hui, c'est plus possible qu'il y ait des morts à cause des algues?
À mon avis, non.
Il n'y en a peut-être même pas eu, en fait.
Pour moi, non. Pour moi, il n'y en a jamais eu. À mon avis, c'est vrai qu'on n'a pas fait une bonne publicité à toutes nos plages bretonnes, là, depuis quelques années, quoi. C'est assez récurrent, tous les ans, au mois de mai, juin, quand les premiers échouages d'algues arrivent, évidemment, de suite, on en parle dans les médias, quoi. Et bon, c'est déplorable, ça, quand même, quoi. Enfin, à mon avis, toujours. Nous, ici, on a 5 salariés, qui n'auraient pas été là s'il n'y avait pas eu les algues vertes, hein. Pour nous, aujourd'hui, c'est vrai que quand je partirai à la retraite, lors des bilans, on pourra dire que les algues vertes ont recontribué à l'entreprise, hein, ça c'est clair. D'autant plus que l'année dernière, par exemple, on n'en a pratiquement pas eu d'algues vertes. Il n'y a pas eu d'échouage pratiquement l'an passé. Et ça nous a mis en difficulté financière, hein, pendant une année. Ouais. On a frôlé la catastrophe, même si je peux dire. Ouais.
Mais alors pourquoi, si c'est pas si dangereux, pourquoi vous les ramassez?
Alors là, pourquoi? Oui, c'est vrai. Pour la vue et puis pour le limiter les risques aussi, quoi. C'est vrai que sur les algues, même sur une fine épaisseur, il y a toujours le risque de glisser ou de de tomber quand même.
Mon rôle, c'est pas de faire peur. Hein. Moi, mon rôle, c'est pas de faire peur, mais c'est d'alerter. Pour les chiens de Aurore Bléron, si je m'étais pas manifesté à ce moment-là et qu'il y ait eu un décès d'un gamin après, un gamin ou un adulte sur la plage de Saint-Michel-en-Grève, mais la responsabilité morale que je peux avoir, quand vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui peut se produire et que vous alertez pas, on peut pas vivre avec ça, c'est pas possible. J'ose espérer que maintenant les gens auront été assez alertés pour éviter que les enfants aillent courir sur les amas d'algues. Il faut espérer. Je reste persuadé quand même qu'il n'y a pas que les cas que j'ai vus. C'est pas possible. J'ai peine à croire qu'effectivement, on ait répertorié tous les cas.
Deuxième partie, Thierry Morfoisse.
À la suite du dramatique accident de cet été, où, enfin, ça a failli être vraiment dramatique puisque le cavalier, effectivement, aurait pu mourir.
Chantal Jouanneau, ministre de l'écologie.
J'ai dit, écoutez, j'en ai marre de. On fait la transparence, que l'État prenne ses responsabilités. C'est pour ça que j'avais demandé l'expertise d'une agence officielle de l'État, de l'INERIS, pour savoir si effectivement ces algues, en tout cas leurs émanations de gaz, étaient toxiques ou non. Parce que jusqu'à présent, certains le disaient, mais on n'avait pas d'études officielles. Et effectivement, les résultats sont très clairs. Les doses sur les algues en décomposition, les doses de gaz, donc cet hydrogène sulfuré, sont le double des doses mortelles. Ce qui m'a frappé dans ce dossier, c'est le nombre d'années où on a joué la politique de l'autruche.
Été 2009. Comme chaque année, des milliers de tonnes d'algues vertes débarquent sur les plages bretonnes en même temps que le soleil. À la fin de l'été, le scandale du cavalier et de son cheval mort enlisé dans une vasière d'algues vertes surgit dans les médias. La vérité semble enfin éclater au grand jour. Et pourtant, à la rentrée, on apprend qu'un accident plus grave encore a été passé sous silence. Le 22 juillet 2009, sur la route qui mène à Binic, plusieurs témoins, dont un gendarme en vacances, croisent un camion dont le chauffeur semble pris d'un malaise. Encore lucide, il parvient à éviter un accident frontal en freinant son camion sur le bas-côté, le long d'un mur.
Le policier s'est arrêté, il a couru tout de suite à la cabine, il a sorti mon fils du camion. Bon, il était inanimé, il a tenté de le ranimer, il l'a ranimé une fois. Et puis c'est là qu'il a dit, ce qui m'a fait le plus mal au cœur, c'est qu'il m'a lâché entre les mains.
Les secours venus sur place écrivent « mort naturelle » sur l'acte de décès de Thierry Morfoisse. Et personne ne s'interroge sur ce que transportait le chauffeur.
On l'a vu que le lendemain, à midi moins de quart, quand il était sur son lit de mort. Quoi. J'ai eu du mal à reconnaître mon fils, parce qu'il était noir. Il était noir, mon fils.
Son camion était alors vide, mais il revenait de son troisième convoi d'algues vertes en putréfaction.
À l'heure de midi, quand il a téléphoné à sa compagne, il a dit « J'en ai marre des algues, putain d'algues ». Voilà ses dernières paroles au téléphone.
Dès le lendemain du décès, l'inspection du travail est diligentée sur le site de l'entreprise qui emploie Thierry Morfoisse. Les salariés n'y portent pas de protection contre l'hydrogène sulfuré, malgré les recommandations préfectorales.
Il faut dire ce qu'il y a, pas de masque, ils n'avaient rien, ils ont été au feu, c'est le cas de le dire, au feu sans rien quoi.
La famille enterre Thierry Morfoisse sans suspecter un lien entre sa mort et son travail.
Je dis, on a été pris vraiment pour des innocents. Hein.
À croire que le touriste passait avant la mort de notre fils.
Bah oui, c'est le premier.
Voilà. Bah, c'est une question de fric. J'ai le fric d'abord, le reste après. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le maire de Binic, il disait, bah oui, rendez-vous compte, le touriste, là, sous les plages, tout le monde va partir, ceci, cela. Et notre fils, alors? C'est pour ça que nous, on a été pris après, pour ce qu'on était, quoi. On nous a rabaissés complètement, quoi.
Ben, je pense qu'il y a le mépris de l'ouvrier dans les accidents du travail. Et plus je regarde dans les accidents du travail, dans la presse et tout, je dis, c'est tout le même point. C'est tous pareil. Il n'y a pas de défense pour l'ouvrier, quoi.
Bon, il a été dit au départ, on a voulu cacher la vérité. Ah ben non, il descendait pas de son camion. Ah mais c'était pas la vérité, c'est pas ça du tout. C'est pas des bennes automatiques. Ils sont obligés de descendre du camion, aller à l'arrière de la benne, ouvrir les portes et benner le plus près possible du tas qu'il a déjà déposé. Bon, mais il fallait pas oublier que c'était une montagne d'algues qu'il y avait derrière, qui avait peut-être 3 semaines à mois. Ces algues-là dégageaient un gaz épouvantable. Et c'est là qu'il se plaignait justement, qu'il avait mal aux yeux, et il nous l'avait dit. Alors il y a ma femme qui lui dit, mais va acheter des lunettes. Mais c'était pas ça du tout. C'était les gaz des algues vertes qui lui brûlaient les yeux. Et la gorge, pareil, forcément, il était toujours irrité. Il était toujours... Moi, je lui dis, mais bon sang de soir, je lui dis, t'es enrhumé. Mais non, papa, qui me dit, je suis pas enrhumé, mais je suis gêné. Ah bon, ben non, on n'a pas fait de rapprochement. Hein. On ne savait pas au départ que les algues vertes tuaient.
À l'époque, moi je connaissais Thierry Morfaz pour la bonne raison qu'en 2006-2007, on a eu un grand boom de la construction ici sur l'Envolon où il y a eu une centaine de maisons qui ont été des permis de construire.
François Morvan, maire de l'Envolon.
Donc il y avait beaucoup de candidats à venir chercher des terrains qui n'étaient pas trop chers et donc Thierry Morfaz et sa compagne en faisaient partie. Donc c'est pour ça que je l'avais côtoyé, je l'ai même rencontré à une fête à Ivia, c'était une brocante. Je crois 8 jours avant qu'il ne décède, quoi. Il ne me paraissait pas malade du tout, il était jovial, il avait la joie de vivre, et puis, ma foi, 10 jours après, ben, il est décédé, quoi. Ouais. Il m'en avait parlé, qu'il faisait un travail dégueulasse. D'ailleurs, quand j'avais vu 10 jours avant à Ivias, il m'avait dit que c'était dur de faire ça, quoi. Il y avait des odeurs épouvantables, hein, donc qu'il fallait être bien accroché pour le faire, quoi. Donc les circonstances de son décès ne sont pas clairement établies. Donc on a dit qu'il a eu un accident de camion sur la route. Je vois bien l'endroit, c'est à la sortie de Binic sur la gauche, en remontant vers l'Antique, vers Notre-Dame-de-la-Cour. Donc on a dit qu'il a eu un accident de camion et puis qu'il est décédé au volant de son camion. Quoi. Pas d'un accident, puisque visuellement, le camion n'était pas abîmé, ni lui-même non plus, il n'avait pas eu de choc. Hein. Alors, il avait fait donc plusieurs voyages, 3, je crois, et il avait un autre chauffeur avec lui, qui était le fils d'un employé communal d'ici, et avait des nausées en faisant ses transports, et il dit, je ne peux plus en faire, ça me remonte, j'ai envie de vomir, tout ça, et donc je ne peux pas continuer. Et Thierry Morfaz lui a dit, t'inquiète pas, moi je vais te faire ton dernier voyage. Malheureusement, il y a eu l'issue fatale lors d'un de ses voyages, où il a remplacé un... Et c'est des choses qui n'ont pas été dites. Alors pourquoi elles n'ont pas été dites? Parce que le chauffeur qui a été remplacé, bon, par rapport à sa société, je crois, n'a pas voulu trop en dire. Quoi. Il a peur certainement de perdre son emploi, donc il a préféré se taire. Quoi. Et il n'a jamais rien dit.
Je suis conseiller régional de Bretagne, vice-président en charge de ce dossier relatif aux luttes contre les marées vertes en Bretagne. Je suis par ailleurs président d'un syndicat d'ordures ménagères dans les Côtes d'Armor, qu'on appelle le SMITUM, et qui est la plateforme de traitement des algues vertes en Côtes d'Armor, qui avait reçu les camions d'algues vertes qui avaient été livrés à l'époque par M. Morfaz. La certitude que j'avais, c'est que M. Morfaz était décédé et qu'il venait de transporter 3 caissons d'algues vertes en provenance de la ville de Binic. Et dès que j'ai informé le préfet et le procureur de cette situation, j'ai senti une certaine gêne. À un moment donné, j'ai senti qu'on ne voulait pas faire ce lien. Alors moi, je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais en tout cas, je suis sûr que M. Morfaz transportait des algues peu avant de mourir. Ça, j'en suis certain. Des produits qui pouvaient être extrêmement toxiques. Ça, on le sait aujourd'hui. Je précise d'ailleurs que je n'ai jamais été entendu sur cette enquête, hein, par qui que ce soit. On aurait pu peut-être me questionner sur les conditions de stockage, les conditions d'accès à l'usine, les conditions de... D'ailleurs, on était dans une situation sanitaire un peu catastrophique, hein, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de plateforme de traitement. Les algues étaient ramassées et stockées comme ça dans des décharges, dans des conditions inacceptables. Et moi, je n'ai jamais été interpellé sur ce sujet.
Ni par la gendarmerie, ni par la justice.
Jamais. Je n'ai jamais même rencontré le procureur sur le sujet. Donc j'ai eu l'impression que, voilà, que les choses n'étaient pas complètement dites, quoi. Enfin, sans doute que tout n'a pas été bien fait.
Moi, je suis médecin. Je suis un spécialiste de la toxicité des polluants aériens. Et j'étais ingénieur de recherche hors classe au CNRS. Voilà. Bon, j'étais un peu révolté, comme tout le monde, quand j'avais l'occasion de respirer des bonnes bouffées de gaz, là, de nauséabond qui nous venait des algues qui pourrissaient sur les plages. Mais je ne travaillais pas là-dessus du tout, au départ. Et l'été, je viens ici, en maison de famille. Et l'une des plages les plus polluées de Bretagne, c'est une plage juste à côté, à Ilion. Et puis un matin, je me lève, là, je suis dans la cuisine, j'ouvre le journal, et deux chiens qui sont morts, à Ilion. On accuse les algues, etc. Je regarde ça, je me dis, non. Ça devait être une dame qui avait deux tout petits chiens, parce qu'il devait avoir le nez sur les algues pour mourir, c'est pas, je comprenais pas. Et je finis par récupérer l'autopsie des chiens. Alors là, stupeur, c'est pas du tout des petits chiens-chiens, les races bitumes, des machins comme ça, comme je le pensais, c'était deux chiens de 13 et 25 kilos. Alors là, c'est important parce que l'autopsie ne laissait aucun doute sur le fait qu'ils avaient été intoxiqués, contrairement à ce qui se racontait. Il n'y avait pas de discussion possible. Et puis, d'autre part, pour H2S, la toxicité chez l'homme est assez proche de la toxicité chez l'animal. Donc, sur ces plages, un enfant, il peut mourir. Voilà l'histoire du début de mon implication sur ce dossier H2S sur lequel je ne travaillais pas du tout. Je ne faisais même pas en cours. Quand je faisais des cours sur les gaz toxiques, parce que pour nous, c'était un gaz, c'est connu depuis longtemps, c'est extrêmement dangereux. C'est tellement dangereux que les industriels font attention quand ils en manipulent. Ils sont obligés de prendre plein de précautions et en fait, ils s'y conforment parce qu'ils savent que sinon, ça va finir par des morts. Quand j'ai pris conscience qu'il y avait un danger mortel, je me suis dit qu'il fallait absolument faire connaître ça beaucoup plus largement. C'est pas la peine d'attendre qu'il y ait des accidents chez l'homme. Et donc j'ai essayé de donner l'alerte, mais ça passait pas parce que les autorités continuaient à dire que fallait pas s'inquiéter, etc., etc. Donc la propriétaire des chiens a voulu porter plainte.
Aurore Bléron.
Voilà. On lui a répondu en gros, ah ben mais si vous portez plainte, vos chiens n'avaient pas été sur les plages, donc vous risquez d'avoir des amendes. En gros, c'était menaçant, quoi.
En septembre 2009, le chercheur du CNRS Claude Lenné s'intéresse lui aussi à l'affaire Morfoisse qui prend une nouvelle tournure. En effet, sous la pression médiatique, une enquête préliminaire est ouverte par le procureur de Saint-Brieuc. Un tube de sang du chauffeur est envoyé dans un laboratoire de toxicologie. Il révèle un taux d'hydrogène sulfuré d'1,4 mg par litre de sang, soit un taux compatible avec une exposition massive et mortelle à ce gaz toxique. Thierry Morfoisse aurait donc bien été intoxiqué par les algues vertes qu'il transportait. Mais, chose incroyable, le procureur déclare ses analyses caduques. Le tube de sang, en effet, n'aurait finalement pas été conservé à l'hôpital de Saint-Brieuc dans un frigo, comme on le croyait, mais dans un simple placard à température ambiante. L'hydrogène sulfuré proviendrait donc de cette mauvaise conservation. Devant le tollé que crée cette nouvelle, le procureur ordonne d'exhumer le corps de Thierry Morfoisse. Et ceci contre le consentement de la famille, qui est croyante. À quoi sert cette exhumation, puisque deux mois après la mort du chauffeur, il n'est plus possible de détecter une intoxication? Pour le procureur, l'enjeu est simple. Selon lui, si l'on trouve une cause physique à la mort de Thierry Morfoisse, alors on pourra éliminer la piste de l'hydrogène sulfuré. Mais si l'on ne trouve aucune cause, on ne pourra pas, pour autant, dire qu'il est mort à cause de l'hydrogène sulfuré. En d'autres termes, le but de l'opération n'a qu'un seul objectif: éliminer la piste des algues vertes. Les résultats sont communiqués à la presse le 5 novembre 2009.
Une récidive d'un infarctus du myocarde sur un cœur cicatriciel et hypertrophique explique à elle seule le décès de l'intéressé. Il ne peut être établi de lien entre son décès et les algues vertes. Clôture de l'affaire, l'absence d'infraction.
Nouveau coup de théâtre, le corps de Thierry Morfoy révèle donc les traces d'un ancien infarctus, inconnu de l'intéressé et de son médecin traitant, et un cœur en mauvais état qui a sans doute conduit à sa mort. Mais devant les journalistes qui le filment, le procureur de Saint-Brieuc se garde bien de lire la dernière phrase du rapport d'autopsie, à savoir « ses résultats sont à interpréter en fonction des données toxicologiques ». En d'autres termes, il n'est pas exclu que le gaz ait contribué à cet infarctus. Ainsi, par un tour de passe-passe, l'unique conclusion qu'en tire le procureur est celle d'une mauvaise hygiène de vie du chauffeur.
Je crois qu'il faut distinguer le problème des algues vertes en général de ce décès ponctuel qui, encore une fois, n'a rien à voir avec les algues vertes. Pour moi, un infarctus, c'est un phénomène, j'allais dire, mécanique, qui en espèce s'explique par sans doute l'hygiène alimentaire, le tabagisme. C'est pas les algues vertes qui encrassent les poumons et font des dépôts de cholestérol au point de faire un infarctus.
On va peut-être me demander de parler de si je le connaissais, quoi.
Non. François Morvan, maire de L'Envolon.
Personne ne m'a jamais rien demandé, même par le fait qu'il habitait la commune. Quelquefois, on fait une enquête de voisinage, une enquête de comment il pouvait se comporter, s'il fumait, s'il donnait la boisson, enfin, pour voir si c'était aussi ça pouvait comporter des risques supplémentaires. Et de ce côté-là, je peux certifier, je le connaissais, il était sobre comme tout. Hein. Quelquefois, il y a aussi des hypothèses qui sont émises, qui peuvent être émises sur le décès, mais de ce côté-là, non, non. Probablement qu'il avait un problème au niveau du cœur, parce que pour décéder, non. Mais ceci a sûrement fragilisé son problème. Enfin, il avait passé quand même sa visite de permis poids lourd très peu de temps avant, hein. Je crois que c'était 2 ou 3 mois auparavant, et donc il avait reconnu apte à conduire des poids lourds, donc s'il y avait eu faiblesse, le permis ne lui aurait pas été accordé.
Je n'ai jamais rencontré le procureur.
Thierry Burlot, conseiller régional chargé de l'environnement et des déchets.
D'ailleurs, je me dis après coup, c'est quand même assez bizarre que même les salariés de l'usine n'ont pas été entendus. Qui ont vu le camion arriver, qui ont vu le camion partir, 3 fois, et puis le responsable de l'usine. Moi, ce qui m'a le plus interpellé, je ne vous cache pas, c'est la deuxième poche de sang. Parce que quand il y a un décès sur la voie publique, il y a automatiquement prise de sang, avec 2 poches de sang. Et il y en a une qui doit être mise en réserve, stockée, dans un lieu adapté pour pouvoir faire des contre-expertises, etc. Et puis la contre-expertise avait été demandée, après de longues semaines de demandes de la famille, enfin, etc. La contre-expertise a lieu, ils trouvent de l'hydrogène sulfureux, et puis la conclusion, c'est que la poche de sang a été mal conservée. Alors là, je dois vous avouer que voilà, ça fait partie des éléments qui jettent un trouble quand même sur tout ça, quoi. Imaginons un instant que M. Morfoy s'est inhalé de l'hydrogène sulfuré pendant son travail, et que c'est pu occasionner sa mort. Est-ce que finalement, c'est pas ça qui s'est passé tout simplement ? Tout le monde a eu peur dans cette affaire. Tout le monde a eu peur. Les algues vertes devenaient un véritable fléau pour la Bretagne. Et c'est vrai que les conséquences d'un décès lié aux algues vertes pouvaient évidemment faire peur. Ce dossier des algues vertes est un dossier hautement politique pour la région. Hein. C'est l'attractivité de la région, c'est le développement du tourisme, c'est l'image de la région. C'est aussi l'agriculture. C'est les modèles économiques qu'on développe en Bretagne. C'est tout ça derrière. Donc c'est pas rien.
J'avais des collègues qui étaient directeurs de laboratoires à Rennes, etc.
Claude Lenné, toxicologue, CNRS.
Qui m'ont fait remarquer d'ailleurs, ils m'ont dit, mais nous, on veut faire des études là-dessus, on a présenté plusieurs fois des dossiers, ils ne sont jamais pris, et on n'a jamais de moyens pour pouvoir faire les études. Donc pour étudier la putréfaction des algues vertes, ça, ce n'était pas possible. C'est un domaine qui était tabou, c'est tout. Parce que les algues vertes, c'est une production de l'agriculture intensive, puisque c'est la surcharge en nitrate dans les cours d'eau qui aboutit à la mer et qui surcharge en éléments nutritifs la mer, qui fait que ça provoque une prolifération de ces algues. Donc il est impossible en France, enfin en Bretagne, de remettre en cause ce fait, quoi.
De remettre en cause ce système agricole.
Oui. Donc la réaction, c'était toujours d'étouffer. Il y avait une connivence entre les syndicats et les représentants de l'agro-industrie et des élevages industriels, et puis les autorités publiques, pour ne pas parler de ces questions-là et pour minimiser l'impact sur l'environnement de cette... Qu'est-ce qu'ils font finalement? Ils font de l'industrialisation de l'élevage comme on a fait de l'industrialisation au XIXe siècle, sans prendre aucune précaution et en rejetant massivement leurs effluents dans les cours d'eau. C'est ce qui a été fait au XIXe siècle. Au XIXe siècle, il n'y avait plus un cours d'eau qui n'était pas un égout dans le nord de la France. Et là, avec cette industrialisation de l'élevage, on fait la même chose. Et donc, il n'y a aucun souci de la protection de l'environnement dans ce mode de fonctionnement. Les agriculteurs, dans toute cette affaire, sont eux-mêmes victimes du système parce qu'ils triment comme des malades et ils ont du mal à gagner leur vie, quand parfois, ils ne la gagnent même pas. Hein. Donc, c'est pas eux qui profitent du système, en fait. Hein. Vous poursuivrez votre enquête pour voir qui, en fait, tire parti de cette industrialisation de l'élevage. Qui est-ce qui ramasse la mise, quoi,
À votre avis?
Oh, ben ça, je vous laisse faire votre enquête.
Un deuxième tabou surgissait, celui des liens entre les dirigeants de l'agroalimentaire et les pouvoirs publics. Mon enquête sur les morts humaines des algues vertes rebondissait sur une nouvelle enquête. Je n'en avais donc pas fini avec la Bretagne.